Vous écoutez France Culture.
Magnifique. Et puis s'il nous reste un peu d'argent, nous ferons une réception monstre pour l'inauguration.
Et oui, on reçoit ce soir dans le rendez-vous en direct sur France Culture. Il sera question de la nouvelle vague, du toréo, de Juan Belmonte, de Louis Malle, de philosophie et même de Nuit américaine avec Alexandra Stewart qui signe Mon bel âge, autobiographie d'une comédienne pour un parcours qui croise Boris Vian, Orson Welles, Woody Allen, Hemingway ou l'autoportrait ambigu d'une actrice trop équilibrée selon Polanski mais qui aurait dû faire une psychanalyse selon François Truffaut, Manu Farine.
Portrait d'une égérie de la nouvelle vague qui s'est rêvée en cavalière de corrida équestre et confesse une disposition particulière à rater les grands rôles.
La session est quinoise. C'est quoi, Mathieu ?
Quinoise, elle vient de Kinshasa.
Ah oui, c'était très bizarrement écrit sur...
Quinoise, donc, Jupiter et Okwes International, le chanteur de Kinshasa, est ce soir dans nos studios avec son orchestre, 6 musiciens, ils joueront un titre qui parle de sa vie, The World is My Land.
Très bien, et nous recevrons aussi Francis Wolff, qui collabore au Dictionnaire de la Tauromachie, au hors-série d'Art Press sur l'art de la tauromachie, pour en travailler les valeurs éthiques et esthétiques. Lucille Comeau.
Portrait d'un passionné qui pense la tauromachie en philosophe et qui fait de la corrida une pratique à la fois en deçà et au-delà de l'art.
Et d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de la culture avec Xavier Martinet qui revient sur le développement des salles de cinéma en Afrique de l'Ouest. Et puis ce sera ce soir les brèves de Claire Mayou. Bonsoir Xavier Martinet.
Bonsoir Laurent.
Après la Chine l'année dernière, c'est vers l'Afrique que le cinéma français tourne ses regards et ses ambitions. Un rapport publié hier par Unifrance, chargé de la promotion du cinéma français à l'étranger, parle d'une opportunité récente et à saisir rapidement. De là à parler d'un Eldorado cinématographique, on en est quand même encore assez loin.
Oui, pourtant, le rapport d'Unifrance se voulait optimiste pour deux raisons. Il y a d'abord les projections de l'Organisation internationale de la francophonie pour 2040-2050. Ce seront 800 millions de francophones dans le monde, dont 80% en Afrique, avec un PIB, donc un niveau de vie, qui va plus que décupler et qui laisse espérer donc une classe moyenne consommatrice de cinéma. La deuxième raison est plus concrète et plus récente, c'est le constat d'un développement récent de la filière cinématographique en Afrique de l'Ouest notamment. Le Maroc, donc là, a déjà ses multiplex depuis des années, mais maintenant des salles rouvrent aussi à Dakar, à Abidjan, à Bamako, là où il n'y en avait plus, ou alors une seule. La Tunisie, elle, est en train de mettre en place, ou a mis en place depuis un an déjà, un CNC, un Centre National de la Cinématographie. Le Sénégal crée le sien en ce moment, donc la filière s'installe et la France se glisserait bien dedans. Mais il ne faut pas voir trop loin, puisque restent les incertitudes sur le soutien politique à la francophonie, et puis surtout l'absence complète de distribution. Dit le producteur français du film La Pirogue de Moussa Touré, un film sénégalais primé à Cannes. Écoutez Éric Névé.
L'accélérateur, il va arriver dans les années qui viennent, c'est-à-dire qu'on va avoir une émergence de classe moyenne, des malls commerciaux, à l'intérieur de ces malls commerciaux, des multiplex. On a vu ça au Vietnam, on a vu ça au Brésil ces dernières années. Et c'est ce qui va arriver. Alors on a un exemple type qui est celui de Dakar, où il y a un centre commercial qui s'est créé il y a, en 2012-2013, et sur lequel on est en train de construire aujourd'hui un multiplex dernière génération. Et d'ailleurs on voit les films américains qui commencent à se pointer. On a tout intérêt à ce que les Sénégalais, les Ivoiriens, tous les pays d'Afrique de l'Ouest développent une industrie locale pour que nous, on puisse aussi essayer d'y glisser des films. Après, moi là, je reviens de Bamako, où vous avez une salle sur un pays pourtant qui se relève de la guerre et un pays meurtri. Et j'ai regardé un peu les chiffres de la salle localement. Ils ont des chiffres qui ne sont pas éloignés des salles parisiennes. Il y a une véritable appétence du public. Simplement, cette appétence du public, pour pouvoir la satisfaire, il faut des infrastructures.
Alors pour développer cette filière francophone, on s'inspirerait du modèle du Nigeria anglophone, c'est-à-dire Nollywood. Alors bientôt un Dakarwood ?
Peut-être. En tout cas, Nollywood effectivement était passé ces dernières années d'une économie de la vidéo au multiplex. Et avec succès, c'est étonnant. Il est beaucoup question en effet en ce moment du Sénégal. On parle aussi de la création d'un hub sur le modèle des aéroports du cinéma francophone en Afrique de l'Ouest. Puisqu'au Cameroun aussi, par exemple, ce sont 50 salles de cinéma qui vont être réhabilitées, ce n'est pas rien. Alors l'exploitation et la production décollent doucement, pourrait-on dire, mais pour la distribution, effectivement, à part un seul acteur géant pour toute l'Afrique de l'Ouest, eh bien, c'est le néant. Mathilde Lafarge, elle, la directrice de la société Onyx, c'était la distributrice du film Aya Diopougon l'année dernière. Alors TF1, qui en était le producteur, n'avait pas prévu de distribution en Afrique. Elle, Mathilde Lafarge, l'a fait par amitié pour l'auteur de
Marguerite Aya Diopougon.
Macron, Margarita Bouet, et aussi par goût du film.
Nous, on l'a amené à Abidjan dès août, un mois après sa sortie française. Donc là, ce qu'on a fait, on savait très bien que sur une opération comme ça, c'est pas la peine de demander à des gens de se réhabituer, enfin, acheter des tickets, ils vont pas le faire et ça va être très pauvre, ça vaut pas le coût d'achat des droits. Comme c'était quelque chose de très populaire et on était certain de l'impact que ça aurait sur les populations, on s'est dit, on fait plus simple, on va voir des sponsors qui vont préacheter des tickets. Et c'est comme ça que ça a pu fonctionner, parce que le produit était bon, ce n'est pas forcément... Là, ils ont TF1 me reproposé un autre film. Là, je leur disais, je ne peux pas refaire la même chose. On a créé un précédent avec Aya. Je dis, mais ce n'est pas sur tous les produits que c'est faisable. Donc là, normalement, il va falloir rééduquer toutes les populations au goût du cinéma qui rachètent des tickets. À Dakar, je sais que c'est une population qui est très culturelle, ils ont l'habitude. Et c'est tout pour l'instant. J'attendrai d'avoir un produit panafricain, surtout. Les seuls à même aujourd'hui de nous permettre de consommer comme on le souhaite, c'est le marché anglophone, donc les Nigérians et autres, même en langue locale.
Langue locale, donc le Wolof par exemple, ou le Bambara, qui serait donc la première étape avant l'établissement d'un cinéma francophone qui lui passerait les frontières en Afrique de l'Ouest. En tout cas, sera à suivre lors des premières rencontres du cinéma francophone qui devraient se tenir au sommet de la francophonie fin novembre à Dakar.
Merci Xavier Martinet, on se retrouve demain pour la suite de ce journal de la culture. Tout de suite les brèves avec vous Claire Maillot.
Et pour ouvrir ces brèves, direction Avignon, puisqu'on a appris que le personnel du festival du IN s'est prononcé à 80% pour le maintien de l'événement, mais souhaite des actions militantes ponctuelles, un vote dont s'est réjoui son directeur, Olivier Pie. Pour lui, je cite, le festival aura lieu avec plus de certitude et surtout avec la parole de ceux qui le font. Ce vote massif des salariés du festival ne lève toutefois pas la menace de perturbation, notamment pour la première du Prince de Hombourg qui ouvrira le festival vendredi soir. La décision de troubler ou pas cette représentation sera prise par l'Assemblée générale du personnel jeudi soir.
Un nouveau président pour la Fédération française de couture.
En effet, Didier Grumbach, l'actuel président de cette fédération qui regroupe les trois chambres syndicales des industriels de la mode française, a décidé de ne pas solliciter le renouvellement de son mandat. C'est donc Ralph Toledano, le président de la division mode du groupe espagnol Puig, gérant entre autres les marques Nina Ricci et Jean-Paul Gaultier, qui lui succédera.
Le syndicat national des antiquaires se sépare de son président.
Son conseil d'administration a décidé hier de procéder à un vote de révocation de son président Christian Dédier. La majorité de ses membres lui reprochent une gestion trop personnelle et une mauvaise affectation du budget. À quelques semaines de la Biennale des Antiquaires, un président par intérim sera nommé demain.
La littérature irlandaise est endeuillée.
On a appris en effet la disparition à l'âge de 66 ans du poète et romancier Dermot Healy. Très connu en Irlande pour ses nouvelles et ses poèmes, il avait placé au cœur de son œuvre littéraire l'identité irlandaise. Son roman Le Chant du Bouc, paru initialement en 84, avait été traduit en français en 2002 et publié aux éditions de l'Olivier.
Et pour finir, échec et mat pour la vulgarité en Russie.
Et oui, Laurent, une loi russe interdisant les expressions grossières au théâtre, dans les films et dans les médias est entrée en vigueur aujourd'hui. L'objectif de cette législation,
éradiquer complètement les fuck des films américains.
Eh bien, vous n'êtes pas si loin de la réalité. En finir avec les mots obscènes et plus particulièrement avec le mat, un riche argot russe dérivé de quatre mots principaux décrivant l'acte sexuel. Ce vocabulaire fleuri parsème pourtant les œuvres de poètes aussi célèbres que Mikhaïl Lermontov et Alexandre Pouchkine. Alors, que dire d'autre que...
Qu'est-ce que c'est que cette merde ?
Merci à vous. Est-ce qu'il y a des réactions à ce que l'on vient d'entendre de la part de nos deux invités, Alexandra Seward, Francis Wolff ?
On ne parle pas du film qui va sortir là, je crois le 2, Timbuktu.
Je crois qu'on en parlera sur cette chaîne quand il va sortir, en effet.
Très bientôt.
Très bientôt. Mais je crois qu'on en avait déjà parlé au moment où il avait été présenté lors du Festival de Cannes, en effet.
Alors, est-ce que ce film-là pourrait avoir du succès dans ce que vous venez de décrire ?
Dans le nouveau cinéma de Bamako ?
Oui, peut-être, par exemple, parce que les gens iront
sans, avec des billets. Alors.
Francis Wolff ?
Écoutez, je me réjouis que le... Festival d'Avignon aura probablement lieu. Je pense que défendre les intermittents du spectacle n'est pas forcément défendre l'intermittence en tant que telle. Mais ça, c'est un point de vue personnel. Enfin, je suis là aussi pour le donner. Et par ailleurs, je pense que ce qui est dommage, en effet, c'est que très souvent, ça tombe sur des festivals fragiles, dont le financement est compliqué. Alors que, comme on sait, c'est les grosses boîtes de production audiovisuelle. Je ne sais pas, je suis pas dans le...
Tout va bien ici.
Tout va bien ici.
Tout va bien.
C'est formidable. Qui mettent souvent plus la main à la caisse que les institutions fragiles. Voilà. C'est un point de vue. Ah ben merci. C'est un point de plus de notre accord.
Ça va être trop. Bientôt.
Le rendez-vous. Les fonds flous, font
valoir les froufrous. Il y a des froufrous pour tous les goûts, des avec trous et des sans trous. Des chapeaux pour les chignons roux. Des foulards autour de nos cous et sous nos robes de peau dessous pour faire chanter nos genoux.
Vous chantiez il y a 50 ans, en 63?
Il y a 50 ans.
En 63.
Ça me tombe dessus. J'avais complètement...
Alexandra Stewart dans Dragée au poivre de Jacques Baratier.
Oui, très joli film. Et je tournais ce film dans la journée, jouant la fille de Francis Blanche, un des hommes les plus drôles du monde. Je faisais pas tant, des tontons flingueurs et autres. Et le soir, je passais chez Carita, on me faisait une énorme chignon. Et là, je tournais dans Le Feu Follet, le rôle de maîtresse de maison qui reçoit Alain Maurice René. Pour pratiquement la dernière soirée de sa vie. Voilà, alors c'était quand même assez schizophrénique dans la même journée,
oui, je peux
de faire
imaginer.
La jeune fille en froufrou chantant de Audi Bertie et dansant autour de l'étoile sur un banc. Voilà, et après étant très stricte, non, pas du tout, mais très...
Maîtresse de maison, maîtresse et brochine.
Sophistiquée et chignon.
Vous avez peu chanté, en fait, Alexandra Stewart, dans votre parcours de comédienne, alors même que Boris Vian, quand on lit votre ouvrage « Alexandra Stewart, le bel âge, mon bel âge » à l'Archipel, alors que Boris Vian vous propose à un moment donné de chanter.
Oui, il a dit « Pourquoi tu ne chanteras pas quelque chose ?» Moi, oui, du moment que ce n'est pas la Traviata.
Ce n'est pas ça qu'il allait vous proposer, je pense.
Non, pas du tout. Pas forcément des chansons de lui, peut-être d'autres. Il a dit « Oui, je sens, tu devrais... » je vais te faire signer un contrat et on va faire des essais, etc., etc. Évidemment, comme il est mort tellement jeune et tellement vite, ça n'a pas le temps de se réaliser, cette affaire-là.
Plateau biographie avec vous, Alexandra Stewart, actrice d'origine canadienne anglophone, égérie de la Nouvelle Vague. Vous signez Mon Bel Âge, donc, aux éditions de l'Archipel, où l'on apprend que vous avez joué au tennis avec Prince, parlé corrida avec Orson Welles et Hemingway, parlé pataphysique avec Boris Vian, vécu avec Louis Malle, raté Plein Soleil, vous vous êtes fait fêler le nez par Jean-Paul Belmondo, vous avez tourné avec Pierre Katz, Daniel Valcroz, François Truffaut, Top Reminger, Roman Polanski, vous avez failli être Ursula Andress dans Docteur No.
Je vois que vous avez vraiment lu l'ouvrage.
Quand on commence à regarder ça, on se dit, mais c'est pas possible, quel parcours. Vous arrivez ici à Paris de votre Canada anglophone à l'âge de 18 ans, après une enfance très
anglophone
grande.
Du Québec.
Du Québec,
même.
Ouais. Après une enfance très grande bourgeoisie montréalaise, éducation anglaise, pensionnat de jeunes filles, chasse à cour. Qu'est-ce que vous veniez chercher à Paris à 18 ans?
J'étais toujours obsédée par l'idée de venir en France, de voir la France, pas l'Angleterre tellement, non. Enfin, l'Angleterre, c'était comme si je le connaissais un peu, tandis que la France, c'était mystérieux. Mon oncle avait été peintre et lui, il avait été venu très souvent en France, mes parents chaque année. Ma sœur avait fait ses études pendant un an, l'Académie Julian, etc.
Que vous intégrerez aussi.
Voilà, enfin, beaucoup moins qu'elle, et puis avec quand même beaucoup moins de talent. Mais enfin, j'y étais, et c'était en plein Saint-Germain-des-Prés, donc c'était très... Mais je ne savais pas ce qui m'attendait, parce que je ne savais pas exactement ce que je pouvais faire, parce que je n'avais pas d'éducation universitaire, etc. C'était plutôt pendant un an de voir, et puis apprendre plus ou moins à mieux parler français, le français, le bon français. Et voilà, donc... mais c'est drôle, très très jeune... J'avais cette idée que c'était vers la France qu'il fallait que je me dirige. Et voilà, j'avais raison.
Et c'est vers là donc, que vous deviendrez donc cover girl, puis actrice de cinéma. Manu Farine.
Parce que votre rencontre, Alexandra Stewart, avec le cinéma, ça va d'abord passer par Pierre Cast, qui vous donne votre premier rôle dans Le Bel Âge, en 58, qui va d'ailleurs donner le titre de votre autobiographie. Qu'est-ce que vous saviez à l'époque de Cast, de la bande des Cahiers du cinéma, de la Nouvelle Vague?
Rien.
Non, parce qu'il n'y avait pas de cinéma à Montréal, par exemple. Le cinéma a été interdit jusqu'à 18 ans, parce qu'il y avait eu un feu dans un cinéma, il y avait eu beaucoup de morts. Donc, ils avaient juste fait l'interdiction des enfants, jusqu'à 18 ans, pas de cinéma. Donc, et puis, à cette époque-là, les cahiers du cinéma et tout ça n'arrivaient pas, je pense, jusqu'à Montréal du tout. Non, aucune idée, ni même de Boris Vian. Ici, à 14 ans, on lit Boris Vian, on écoute Serge Gainsbourg, etc. Nous, pas. Un peu de Molière, quand même, de théâtre, oui, classique, dans les théâtres francophones, mais pas de rien de tout ça.
Alors, c'est avec Cast que vous allez tourner le plus régulièrement. Vous apparaissez dans 9 de ces 14 longs métrages. Comment vous expliquez qu'on le connaisse si peu encore aujourd'hui, qu'il n'y ait pas de grande rétrospective, comme par exemple, il a pu se passer dernièrement avec quelqu'un comme Arietta? Pourquoi Cast, ça résiste, d'après vous?
Oui, je me le demande et on me le dit assez souvent. Et moi, quand je revois ces films, quand c'est possible, parce qu'on peut presque plus un animal doué de déraison, on ne le trouve plus. Le Bel Âge, oui. La Mort de saison des amours, peut-être. Mais enfin, si ce n'est pas des films plus commerciaux, ça coûte trop cher de les restaurer. Donc, ils ne sont pas restaurés. Dragé au poivre, un mal fou de le faire restaurer, le sortir en DVD, ce n'est pas encore fait. Et qui était un film très foufou, adorable et qui pourrait plaire aux gens, ben non, elle leur caste peut-être trop intellectuel et puis il ne fait pas partie de Godard, Truffaut, Rivette, Chabrol, Rivette, oui, c'est et peut-être trop intellectuel ou je ne sais pas, en tous les cas, non, ça n'a jamais. Je crois que Jacques Daniel Valcroze à l'époque a eu plus de succès que Pierre Cast avec la sortie de L'eau à la bouche qui a fini par sortir parce que tout ça ne sortait pas d'emblée tout de suite, quelquefois un an après, un an et demi après. Moi, j'étais presque jamais là parce que j'étais toujours en train de tourner ailleurs.
De tourner ailleurs. Donc, en guettant si les films allaient sortir en France.
Non, je guettais pas, je crois pas, parce qu'il y avait aucune façon, pas d'iPad, rien non, pour ça, guetter. Il y avait les pigeons voyageurs qui pouvaient vous amener des nouvelles.
Manu.
Alors après Cast, il y en aura d'autres, hein, bien sûr. Il va y avoir notamment Preminger, Exodus, tourné en Israël avec Paul Newman. Comment Preminger se comportait-il sur le plateau?
Assez terriblement, mais sa réputation, j'avais déjà entendu parler de l'ambiance avec la sublime Jean Seberg dans Bonjour Tristesse et après surtout Jeanne d'Arc, je crois, il est traité, enfin c'était quelqu'un qui se contrôlait pratiquement pas, qui hurlait, devenait très très rouge et là ça a continué aussi là, l'Israël faisait particulièrement chaud, c'était une équipe gigantesque et le film, j'avais oublié, je l'ai vu l'autre jour à l'Institut Lumière, c'est très long, c'est 3 heures et quelques, donc il y avait plein de choses, on était là des mois, même si on n'avait pas des rôles gigantesques, on était toujours là pour vite courir sur le set et il a pris des telles rages que je crois que c'était un directeur de photo, un ingénieur de son, un assistant et le Lee Jacob qui jouait le père de Paul Newman et moi-même est carrément parti lui avant la fin. Donc ils ont essayé, ils se sont arrangés dans le montage pour que ça ne se voit pas, qu'il n'a pas vraiment fini le film, qui est quand même un grand acteur avec la même corpulence que Otto Preminger et qui est quand même une forte personnalité, pas quelqu'un comme moi. Oh, oui, pardon, excusez-moi, monsieur Preminger. Non, et lui, il est parti, les autres aussi. Alors, il faisait avec ceux qui restaient, qui étaient beaucoup. Mais bon, c'était quand même un metteur en scène, si vous connaissez sa filmographie, avec énormément de talent. Donc, quand on a autant de talent, moi, je trouve qu'on peut permettre des excès. Mais avec moi, il était, parce que moi, je vous avais dit que je n'étais pas comédienne. J'ai fait très peu de choses et qu'avec des amis jouant plus ou moins soi-même ou étant juste là comme ça. Je
ça lui allait très bien au début, mais après, ça ne lui allait plus du tout.
Non, pas du tout. Mais après, il a dit oui. Il n'a pas dit vous avez raison, mais enfin, il a arrêté. Il ne m'a plus jamais engueulé, mais il avait plus ou moins raison quand même, dans mon cas.
Alors, pire que Preminger, vous avez aussi joué sous la direction de Michel Mitrani, pour qui vous tournez Sans merveille, d'après Marguerite Duras, en 64. Un tyran, dites-vous. Qu'est-ce que cette violence a permis malgré tout, en fait, dans ce parcours pour vous?
Je crois que lui, moi, je lui avais dit, écoutez, je ne pense pas que je ne peux pas dire un texte comme ça, je ne suis pas assez, je ne parle pas assez bien français, ou je n'ai pas été dans des écoles de comédie, etc. Et donc, je pense que c'est tellement mieux pour Jeanne Moreau si elle accepte Emmanuel Riva que moi. Alors, elle dit non, 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 je ferai de vous une vraie comédienne avec des textes de sublime Marguerite Duras. Tu penses toujours plus loin que là où tu penses, de l'autre côté, de là où tu es en train de penser, il faut faire rentrer du bois pour l'hiver. Attends, il faut avoir beaucoup de souffle hein, pour sortir ça.
Vous vous en rappelez encore.
Ah, oui, oui, c'est la seule chose, pratiquement la seule. Donc, parce que je me disais, comment est-ce que je peux dire ça vraiment de façon, en imitant les deux grandes comédiennes que je viens de citer. Mais non, je crois qu'il pensait que quand me mettant au bout, me forçant, etc., que j'allais pouvoir avoir une expression d'angoisse, de désarroi, de souffrance, etc., sur ce visage un peu trop sûrement, voilà, poupin, ou j'en sais rien, qu'il n'y avait pas beaucoup d'expression pour jouer, je crois que... Je n'ai pas revu le film depuis donc 75. Je crois que je jouais quelqu'un de désaxé ou une folle.
Exactement.
Quelque chose. Voilà. Mais très, très. Photo absolument sublime de Sacha Vierny, qui a fait les films d'Alain René et tout le monde.
Eh bien, alors à ce sujet, notre stagiaire Lola Etéanu a deux questions sur cet épisode. Lola.
Voilà, donc à propos de ce film, vous dites que Jeanne Moreau ou Emmanuel Riva ou Maria Casares, ce sont des vraies tragédiennes. Donc qu'est-ce que c'est pour vous une vraie tragédienne?
Les gens, comme en tant que public, qu'on croit, il y a une espèce de vous comme spectateur, vous croyez à ce qu'ils disent, que ce soit le théâtre classique, les grands rôles, la comédie française, etc. En plus, c'est tous des gens qui ont quand même travaillé été à la comédie française, etc., qui ont une énorme expérience de ça, qui ont eu des maîtres, des gens, et un entraînement. Plus leur propre personnalité, leur propre profondeur qui se gêne pas à jeter sur nous le public et qu'on reçoit comme ça dans le cadre de ces, par exemple, ces trois comédiennes là.
Voilà.
Et tout au long de votre livre, on vous surprend en train de proposer aux réalisateurs d'autres noms d'actrices que le vôtre. Par exemple, Françoise d'Orléac pour Cul-de-sac de Polanski ou Ursula Andress pour James Bond contre Dr. No. Et on a l'impression que vous avez été souvent à l'origine de rencontres entre techniciens, réalisateurs, même écrivains. Et on se dit en fait que vous auriez été une super directrice de casting,
oui.
Un peu à la Dominique Besnard.
C'est vrai, ou agent.
Ou agent, tout à fait. Vous
oui,
y avez
souvent,
pensé à un moment donné ou pas?
Bibi parce que... Anderson de chez Ingmar Bergman m'a dit « Oh là là, quand je lui dis « Ah oui, tu devrais, voilà, ça serait bien. » Je me dis « Oh, pourquoi tu n'es pas mon agent? Je veux que tu sois mon agent. » Non, il faudrait être un peu de tout. C'est ça que j'aime, c'est un peu de tout. Et puis, une chose n'empêche pas, sauf en France, où, vous savez, le Bordeaux, elle ne va pas subitement se trouver dans une bouteille de la forme du vin de la Bourgogne. Donc ici, c'est très difficile de dire « J'aimerais bien faire un peu de radio, faire des questions comme vous faire. » Elle va dire « Oh, ben non, vous ne serez plus Alexandra Stewart ou je voudrais être l'assistante de Monsieur Malle ou de faire quelque chose ou être décoratrice pour Philippe de Broca quand j'aurai fini de jouer le rôle pour rester avec l'équipe. » Moi, ce que j'aime, c'est des équipes. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup toutes les... Oui, ça me fascine et je trouve ça super très sympathique.
Francis Wolff, à quel type de cinéma vous associez le nom d'Alexandra Stewart?
Truffaut, quand même.
Ouais. La Nuit américaine,
voilà.
La mariée était en noir.
Voilà,
enfin, c'est pas des...
C'est des grands rôles pour moi. Enfin, Truffaut fait partie des quelques cinéastes que j'ai adorés, dont je me précipitais voir le film à sa sortie. Et donc, pour moi,
oui, moi aussi.
Stewart reste associée.
Manou.
Vous consacrez Alexandra Stewart un long chapitre, à une autre de vos passions, qui est la tauromachie, un virus qui vous prend très très jeune, hein, alors que vous n'êtes encore qu'au pensionnat au Canada, avec la lecture notamment des romans d'Hemingway, hein, Le soleil se lève aussi, et Mort dans l'après-midi. Donc quand vous arrivez à Paris, une urgence première, c'est d'aller à Pamplune pour assister à une corrida. Est-ce que vous vous souvenez de cette toute première corrida?
Oui, je crois que j'espère... que je m'en souviens, parce qu'après on pense se souvenir et on se rappelle autre chose, mais j'avais forcé ce couple, ces amis de mes parents qui m'hébergeaient à Paris, absolument, qui n'étaient pas du tout le genre taureau, et bon, ils connaissaient un peu la côte basque, mais pas plus, d'aller à Pamplona, ce qu'ils ont fait. Je ne sais pas comment je leur ai fait peur pour qu'ils aillent jusque-là, parce que le mari était très, très intellectuel et la femme aussi d'ailleurs, mais ils étaient tous sauf genre tauromachie, mais ils m'ont amené là-bas. Mais j'avais lu en dehors de Hemingway et un livre qui, je ne sais pas du tout dans le type de pension où j'étais, enfin type unique, type de pension, La vie et la mort de Manolete. Et en 47, par le Torre Huslero, tout ça, avec Luis Miguel Dominguín, pas rentrer là-dedans, vous connaissez trop bien. Et je ne sais pas pourquoi, avec toutes les autres lectures plutôt classiques qu'on avait. Et ça, ça m'est tombé. Je le lisais comme ça sous la table et les gens disaient, mais pourquoi, lève la tête, qu'est-ce que tu as là sur les genoux qui te fascine tellement? Et ça me fait un effet, en dehors d'Hemingway que j'ai lu un peu plus tard.
Et que vous allez rencontrer ça, par la suite.
Oui, absolument. Et que j'ai appris l'espagnol avec la 6000 et tout ça. Et les gens me disaient, comment vous appelez-vous? Yo me llamo Alejandra Estuardo. Je trouvais que mon nom en espagnol, en castillan, sonnait beaucoup mieux. Ben voilà, c'était à cause de ce livre-là. Et j'ai dit, ben écoutez, si je dois rester seulement un an en France et repartir à Montréal, si je n'arrive pas à trouver comment faire pour rester en France, je veux absolument aller à Pamplona. Et j'ai trouvé, avant de vous décrire en une demi-mot la première corrida, j'ai lu dernièrement qu'Angelica Houston, la fille de John Houston, le grand John Houston, avait eu sur ses genoux, dans une pension, mais en Irlande, exactement le même livre. Je vais le lire, je me dis, non, ça c'est une coïncidence quand même extrêmement étrange. Mais en tous les cas, le premier corrida, ça m'a pas... Parce qu'il y a quand même eu un vieux cheval qui était... Il avait un carapaçon, mais... Il est tombé tout de suite avec le empuja du taureau, le taureau qui l'a poussé et qui l'a renversé. Et tout de suite, voilà, il a mis les cornes dans son ventre. Alors ça, quand même, ça m'a fait beaucoup d'effet comme ça. Je n'ai pas été absolument subjuguée. J'ai trouvé que le tout était étrange, la musique. Enfin, cette chose mise en scène absolument assez extraordinaire. Mais j'étais un peu perturbée par cet accident qu'après, il n'y en a pas eu tellement comme ça. Et après, j'ai pris goût parce que j'ai pris une certaine connaissance de ce qui se passait, parce que juste regarder ça comme spectateur, comme ça, ça a beaucoup moins d'intérêt comme pour tout, que de savoir exactement que toutes les faenas, ce que veut dire le déroulement d'une corrida.
On va en parler tout à l'heure justement avec Francis Vol. Francis Vol, vous aussi, vous avez lu Vie et mort de Manolete sur les genoux?
Non, mais je n'ai pas lu sur mes genoux, mais en revanche, puisqu'on parlait de cinéma, il y a eu un film assez récent d'ailleurs, mais qui n'est pas à la hauteur, Blanca, ni de la vie, ni de la mort de Manolete, et c'est dommage. En revanche, il y a eu des beaux films.
C'est quoi
Bianca
comme film?
Bianca Nieves.
Voilà, j'allais le citer.
Oh là là.
Voilà un vrai
Moi, j'ai
film taurin, parce
génial.
Qu'il a l'esprit de la tauromachie. Oui. Sans montrer beaucoup de scènes taurines, mais il y a un esprit tauromachique, alors que ce biopic de Manolete n'a pas...
Ah ça, je n'ai même pas voulu le voir, j'ai résisté, il faut dire, mais je ne l'ai pas vu. Mais le Blanca Nieves, exceptionnel.
Absolument.
Bon. On continuera la conversation tout à l'heure.
Le rendez-vous, 10h, la session.
Mathieu Conquet, la session musique. Rien à voir avec l'Espagne.
Ah, pas du tout, non. On va beaucoup plus au sud. Se tient derrière vous Laurent Jupiter Bukonji. Il est venu ce soir dans nos studios avec son orchestre Oques International. Ça veut dire la nourriture internationale. Jupiter, c'est une des figures des rues de Kinshasa. Il est un peu prédicateur, griot, philosophe. Sa carrière de chanteur, elle est marquée par une rencontre avec des réalisateurs, notamment Renaud Barret et Florent de la Tulaye, qui étaient venus à Kinshasa pour suivre notamment le staff Benda Bilili, sur lequel ils ont fait un film. Et on l'aperçoit d'ailleurs, sa grande silhouette, la silhouette de Jupiter dans ce film. C'est presque un personnage à lui seul. Il a aussi une vie faite de rupture avec sa famille, d'abord au moment de choisir la carrière de musicien, ce que va désapprouver son père diplomate, et avec la rumba congolaise, qui était devenue une musique officielle pendant les années Mobutu. Le Congo compte 450 ethnies et autant de styles musicaux d'après Jupiter. Il espère faire entendre cette richesse en dépit parfois des moyens réduits. Hein. C'est un peu à l'image de la dégradation des services publics au Congo. Vous voyez derrière vous, il y a une basse, une guitare qui sont fabriquées, on va dire, faites maison, hein, voilà, en bois sculpté. Mais vous allez voir, tout ça sonne impeccablement. Au Okwes International, ce sont Blessé Wika qui est au maracas et au cœur, Richard Kabanga à la guitare lead, Eric Malumalu est à la guitare rythmique et cœur, Wendy Bongogo est à la basse et Montana Kinounou à la batterie. Jupiter, c'est à vous.
Ich bin eine Kongolese, the world is my land. Ich bin the world is my land. Ah! Ich habe aus Berlin gewohnt. In Weißen in X2, Nummer 0303 in Deutsch Demokratik Republik. Und ich will auch sagen, was ich hab da gesehen. Immer in Straße. Die kleinen Kinder sagen ihrer Mutter: Mama, Mama, guck mal die Neger. Ja, ich bin Neger, aber du bist Kartoffel. Ah! Quand j'étais gamin, je vivais à Berlin-Est. Le petit blanc qui me voyait passer disait à sa maman: Maman, maman, regarde les nègres. Moi, nègre, tu te travestis par le mur. Je suis un berliner. The world, the world, the world, the world is my land. We'll be right back.
Merci. Jupiter et Okwes International, ils seront en concert, on est en direct sur France Culture, vous pourrez les entendre, Jupiter et Okwes, ils seront jeudi au Festival des Hautes-Garonne à Africajar le 26 juillet, le 30 au New Morning, c'est à Paris, et surtout aux escales de Saint-Nazaire les 1er et 2 août. À Saint-Nazaire, il y a une très belle affiche, Bootsy Collins, Kezia Jones, Ayo, rien que ça. Et Jupiter et Okwes, leur album Hôtel Univers, il est paru sous le label Out Here Records. Merci.
Le rendez-vous.
Plateau Corrida avec vous, Francis Wolff, vous êtes philosophe, professeur de philosophie à l'École Normale Supérieure, auteur de nombreux ouvrages consacrés à la tauromachie, mais pas que, notamment une philosophie de la corrida chez Hachette en 2011. Vous avez signé l'article Corrida et philosophie dans La tauromachie, histoire et dictionnaire, qui vient de paraître sous la direction de Robert Bérard chez Robert Laffont. Et puis on peut aussi vous lire dans le dernier numéro de la revue Art Presse 2, consacré à l'art de la tauromachie. C'est intéressant parce que les premiers mots de votre article 1913, l'invention moderne d'un art classique, le toreo, viennent contredire l'idée que la corrida serait un art. S'il y a un art, vous dites, c'est le toreo. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette nuance ?
Alors oui, j'imagine qu'à la fin d'un repas, vous disiez comme ça, entre la poire et le fromage, à mon avis, vous voyez, la corrida est un art. Alors, je pense que tout le monde va vous tomber dessus.
C'est déjà fait.
D'un côté, vous aurez une majorité d'anti-corrida qui vous dit « Non, pas possible, c'est pas un art, c'est une boucherie ouais. !» Évidemment, vous pourriez répondre « Oui, mais il y a quand même un art du boucher, et puis pourquoi s'en prendre à cette corporation ?» Ou bien, vous pourriez, si l'autre côté, vous avez des aficionados qui disent « Mais non, ce n'est pas un art, voyons, c'est un combat sérieux, etc. » Alors là, vous pourriez dire « Oui, mais quand même, il y a de la beauté dans la corrida, il y a même du sublime, parfois. Oui, mais là, il ne faut pas tout confondre. La corrida n'est pas faite pour créer de la beauté, la corrida est faite pour montrer... l'affrontement éthique d'un homme et d'un animal. Alors, je crois que tout le monde a raison un petit peu et tout le monde a tort un petit peu. Et ce que j'essaie de montrer, c'est qu'il y a un sens dans lequel il y a un art tauromachique, en effet, dans un sens assez particulier,
qui est
ce que vous venez de nommer, à juste titre, le toreo, c'est-à-dire ces phases de duel homme-taureau avec une cape ou avec ce qu'on appelle une muleta, dans lesquelles... En effet, on transforme la charge d'un animal sauvage qui veut vous tuer, et c'est bien normal, on la transforme pour en faire quelque chose, non seulement de vain, d'inutile, qui n'atteint jamais son but, c'est-à-dire de vous tuer, ni même le leurre qu'on lui présente, mais on le fait effectivement en créant de la beauté, en donnant une forme à cette matière brute qui est la charge d'un animal sauvage. Et ça ressortit à tous les canons classiques d'un art classique.
Lucille Comeau.
Je voulais savoir quand commence pour vous cet intérêt, parce qu'a priori, rien ne vous y destinait. Vous êtes né à Paris, de famille parisienne. Je crois que vous avez vu une première corrida quand vous aviez 18 ans. À quoi elle ressemblait et qu'est-ce qui a fait scène primitive pour que vous y reveniez après ?
Alors, je vais vous dire, elle était très mauvaise. Il pleuvait. Les conditions étaient les pires possibles, rien ne me préparait. Probablement, si je n'avais pas vu cette corrida, je serais peut-être aujourd'hui en train de défiler avec des gens qui manifestent contre cette cruauté. Comment ose-t-on ? Je comprends d'ailleurs, je comprends très bien tout ça. Mais voilà, ça m'est tombé dessus. Rien ne m'y préparait, ni ma famille, ni mon entourage. Voilà, un peu comme moi,
exactement.
Et alors, je dis, bon, je ne crois pas beaucoup en Dieu, mais ça m'est tombé comme la grâce divine. C'est-à-dire, je vais avoir la grâce efficace. Parce que quand vous avez la grâce, il suffit un élément déclencheur externe, n'importe lequel, pour déclencher, y compris une mauvaise corrida. Et j'ai vu quelque chose qui ne ressemblait à rien de ce que je connaissais, dans lequel j'ai été pris d'une espèce de suffocation, d'admiration, mais d'admiration pas simplement pour le combat de l'homme, mais pour cette bête sauvage qui luttait, en effet, pour défendre sa vie, de cet homme qui luttait lui aussi, mais en dépit de la crainte de la mort, et qui, en effet, je commençais à l'entrevoir, transformait sa propre peur en œuvre d'art.
Alors justement, il y a un nom qui va signer l'invention de cet art, c'est Juan Belmonte, et vous donnez même une date de naissance, le 11 avril 1913 à Madrid. Que se passe-t-il pour qu'on entre avec Belmonte dans ce que vous appelez la modernité ?
Alors ce que j'appelle, pourquoi ? Alors c'est un petit peu conventionnel de dire il y a avant Belmonte, il y a après Belmonte.
Mais pour autant c'est vrai.
Ouais. Oui, alors Alexandra...
Le divin chauve.
Ça, c'est Raphaël et Gaillou. Mais enfin,
Pardon.
Mais concernant Belmonte, pourquoi on peut considérer que c'est une rupture ? Non pas, comme on dit parfois, si vous ouvrez, en général, les ouvrages disent, avec Belmonte, l'esthétique prend le pas sur la domination de la bête. Alors, tout le monde imagine, oui, alors j'ai compris, avant, c'est des espèces de brutes épaisses qui affrontaient des monstres. Puis après, à Belmonte, c'est des types qui font des figures de balai face à des espèces de veaux gentils et tout ça. Pas du tout. Si je crois que les choses se passent avec Belmonte, c'est parce que, d'ailleurs, il prenait plus de risques qu'aucun autre, c'est pas du tout cette question-là, c'est parce que, je le dis, il va donner une forme à une fonction. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Je pense que le fond de tout art, ce n'est pas forcément la beauté, ce n'est pas forcément l'enjolivement. Mmh. Parce que de la beauté, il y en a partout. Hein. Il y a des beaux gars, il y a des beaux garçons, il y a des belles filles, il y a des belles passes au foot, on en voit tous les jours, etc. Non, il y a des beaux buts. Bon. Non, ce qui fait vous donner forme à une fonction, c'est-à-dire qu'il y avait une fonction avec Belmonte qui était la domination de la bête. Et avec Belmonte, elle va trouver une forme, c'est-à-dire qu'il va faire que cette domination se voit, se lise dans la manière dont, en appliquant des canons classiques de tout art, c'est-à-dire le maximum d'effets dans le minimum de causes, hein, c'est-à-dire ramasser dans une seule passe, par exemple, le maximum d'effets sur le taureau, le déplacer avec le plus de lenteur possible, enchaîner les passes de la façon la plus économique, tout ça, ce sont des grands principes de tout art classique que Belmonte applique à cette fonction qui existait avant lui, qui est la fonction dominer l'adversaire.
Alexandra Stewart, est-ce que... Oui, je suis en train de penser à Kagan, je suis en train de remonter dans le temps. Pedro Romero, tous ces gens qui ont arrêté le charge du taureau comme ça et l'ont pris au début dans le cap, avant que le taureau commence à être blessé par les banderies, tout ça pour
laisser la tête,
couper les muscles pour affaiblir, etc. Mais quand on, quelquefois, je ne sais pas si vous êtes pour ce genre de passe, quand Luis Miguel, je l'ai vu faire, de Miguel, se mettre à genoux devant le tauril, quand le taureau va sortir et ébloui par le soleil, comme ça, il monte avec ses deux pattes en l'air, et le taureau ne bouge pas, il le prend dans le cap, il le fait passer en principe, sauf si le taureau lui en donnerait, tout est fini. Mais est-ce que vous êtes pour ce genre de passe par rapport au classique ? Parce qu'Antonio Ordóñez n'aurait jamais fait ça.
Il n'aurait jamais fait ça, il a fait quelquefois des passes un genou en terre à la cape, mais effectivement, ce n'était pas son genre. Oui. Si vous voulez, je dirais qu'il y a deux valeurs esthétiques qui dominent la corrida. Il y a ce que vous venez de rappeler, ce genre de moment, ce que j'appelle l'esthétique du sublime, c'est-à-dire de la demesure, du trop. Il y a brusquement, moi je me souviens, on parlait de Pamplune, vous parliez de Pamplune il y a quelques instants, alors là, c'est la feria de la démesure. C'est la folie 24 heures sur 24, c'est les lâchers de taureaux, les pauvres Américains qui sont là, qui ne comprennent pas ce qui se passe, etc. Et avec des vrais coureurs devant les taureaux qui risquent leur vie pour la beauté du geste, ça fait partie de tout cela. Il y a une esthétique du sublime, c'est-à-dire de la démesure et de l'excès dans la corrida. Et c'est parfois ce qu'on voit. J'ai vu à Pamplune des corridas sous un orage terrible, avec des gens qui... Il y avait une espèce d'excès à la fois extraordinaire, bouleversant, dont on met des heures à se remettre. Et puis vous avez une esthétique plus classique, une esthétique de la beauté, une esthétique, vous parliez d'Antonio Ordóñez, c'était le maître du classicisme, faire le moins possible, mais avoir le plus d'effets possible, comme vous voyez un grand skieur, qui ne fait presque rien, un petit peu un mouvement de genou, et qui a un tel effet sur le taureau, c'est absolument bouleversant, mais c'est un autre canon.
Orson Welles, d'ailleurs, avait une passion pour Ordóñez, puisqu'il voulait que ses cendres soient mises devant sa maison.
La porte près de Ronda, oui.
Exactement.
Francis Wolff, je crois que vous avez vu près de 1500 corridas. Quelle serait celle dont vous vous souvenez le plus, qui vous aurait le plus marqué ?
Bah alors, en dehors de la première qui m'a marqué définitivement, si je puis dire, au fer rouge, il y a dans les récentes, je ne vais pas être original pour ceux qui connaissent un peu ce qui s'est passé depuis quelques années, il y a celle qui donne l'occasion de cette couverture du Art Press dont on parlait à l'instant, du dernier numéro.
Art Press de l'art de la tauromachie.
Où on voit le plus grand torero actuel, je pense, sans hésitation, qui s'appelle José Thomas, le 16 septembre 2012 à Nîmes, affrontant seul six taureaux, où là nous avons vu tout ce qu'on peut voir en une seule corrida, tout ce qu'on peut voir à la fois de beau, de sublime, d'économe, de. Et là, si vous voulez, même, je pense, un anti-corrida verrait ça, il en pleurerait d'émotion parce que il aurait.
Vous voulez qu'on reçoive beaucoup de courriers, encore
même
plus de
courriers. Même la mise à mort était réussie.
Les mises à mort étaient absolument parfaites. Je vous assure que les taureaux ont aimé ça, c'est évident. Bon.
Moi, vous allez me. Je sens que je vais repartir dans les quadrillas à travers.
À ce sujet, d'ailleurs, Alexandra Stewart, vous êtes passée aussi de l'autre côté. Vous avez voulu à un moment donné travailler aussi. À cheval.
Oui, oui, j'ai monté pas mal de chevaux chez les Peralta, etc. Et puis les Domecq, et puis à la Feria de Séville, on vous prête des chevaux absolument de magnifiques, Cartujanos, etc. Et on m'a donné, j'ai pris des cours pour certaines passes. Moi, j'ai tout de suite vu le danger de la chose et je dois être assez trouillard. Je dis, il vaut mieux laisser ça à Marie-Sara et à Conchita Cidrone comme moi. Je reste spectatrice.
Vous avez déjà été tenté, Francis Wolff, de faire des passes.
Vous avez fait des petites corridas avec les
vaches. Comme on dit, taquiner la vachette, mais la vachette, sans succès, ni pour elle, ni pour moi.
Très dangereux aussi. Antonio Benvenida est mort comme ça.
Je sais bien. J'y pensais sûrement.
Lucille.
Dans votre article sur corrida et philosophie, vous dites « Les pays de forte tradition philosophique ne sont pas des terres de tradition taurine et vice-versa ». Comment vous expliquez ça?
Alors, je ne l'explique pas, justement, je le constate. Je m'amuse en effet à imaginer, alors je ne sais pas si c'est peut-être un fond de vérité, que le grand philosophe espagnol Ortega y Gasset rencontre le grand philosophe allemand Heidegger et que Heidegger, avec son germanocentrisme et sa xénophobie, disent un peu ironiquement à Ortega y Gasset « Comment expliquez-vous qu'il y ait si peu de philosophes espagnols ?» Et Ortega y Gasset répondrait « Comment expliquez-vous qu'il y ait si peu de toreros allemands ?» Bon, alors, on constate évidemment que c'est plutôt une pratique méditerranéenne, que c'est plutôt une pratique latine qui s'est répandue dans le bassin méditerranéen
grec,
sous toutes les formes de tauromachie, parce qu'il y a la tauromachie en général, il y a la corrida en particulier, qui est une forme très particulière de tauromachie. Sinon, il est clair que la tauromachie a un aspect universel, en ce sens que partout, dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures depuis l'Antiquité où il y a eu des taureaux sauvages, il s'est inventé une tauromachie. Simplement, l'Espagne, ou plus exactement l'Andalousie, a inventé une tauromachie particulière qui nécessitait des conditions à la fois économiques, la présence de certains types de taureaux, qui était une tauromachie qu'on a appelée sacrificielle, c'est-à-dire qui s'achevait par la mort du taureau, alors que la plupart des autres tauromachies procèdent d'une autre manière.
Dernière question, Lucille.
Je sais que vous êtes en train de préparer un livre sur la musique, vous nous le disiez tout à l'heure, et dans une émission sur cette antenne chez Alain Finkielkraut, vous compariez justement l'émotion que vous procure la musique et l'émotion que vous procure la corrida. De quelle nature est ce lien?
Alors, il y en a nombreux, et là, il faudra que je revienne pour parler du futur livre. Mais si vous voulez, je n'en prendrai qu'un seul exemple. Tout petit exemple qui n'est pas le plus intéressant sans doute. Quand vous entendez une grande virtuose de la vocalise comme Vivica Genot, par exemple, dans Vivaldi. Bon, je prends cet exemple parce qu'il me passe par la tête. Vous avez le souffle coupé et vous ressentez une certaine émotion. C'est-à-dire que vous avez l'impression à chaque instant que ça peut se rompre et que ce charme extraordinaire d'une humanité qui vint sa propre animalité, si je puis dire, c'est-à-dire qui transforme un instrument banal, animal, qui est la voix, qui est faite pour crier, pour appeler, en quelque chose qui n'a plus rien à voir, quelque chose d'éthéré, et qui en fait quelque chose d'absolument bouleversant. Vous avez l'impression, vous êtes sur le fil de la voix, le fil du rasoir, le fil de la corne, eh bien, vous avez cette même impression par moment quand la corne du taureau frôle la cuisse du torero et qu'à chaque instant, il la détourne d'un petit coup de poignet et que, de la même façon, la cantatrice, apparemment, sans le moindre effort, mais qu'est-ce que ça signifie comme travail derrière ? Apparemment, sans le moindre effort, eh bien, transforme cet instrument banal qui est notre voix, qui nous sert à communiquer, en cet instrument extraordinaire. Et qui, c'est pareil, c'est transformer une matière étrangère et lui donner une forme.
Elle dit, tu penses toujours plus loin que là où tu penses, de l'autre côté, de là où tu es en train de penser, il faut faire rentrer du bois pour l'hiver. Attends, mais il faut avoir beaucoup de souffle.
Il dit, ça m'est tombé comme la grâce divine, c'est-à-dire je devais avoir la grâce efficace.
Merci à nos invités, Alexandra Stewart, Mon bel âge, disponible aux éditions L'Archipel et Francis Wolff. La tauromachie, histoire et dictionnaire, la nouvelle édition est disponible aux éditions Robert Laffont. Et je signale la parution de Harpres de l'art de la tauromachie. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain...
Viviane Mayer réalise en 30 ans plus de 120 000 prises de vue, qui ne seront découvertes qu'en 2007, après avoir été saisies, puis vendues aux enchères pour honorer des impayés.
Demain, émission photographie et mystère avec le réalisateur Charlie Siskel et le chef opérateur Thomas Hardmeyer. La session sera double. Il y aura Baz et Pierre Lapointe. Lola, des annonces.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission que vous pouvez réécouter et podcaster sur le site franceculture.fr. Une émission préparée ce soir par Manu Farine, Lucille Como, Mathieu Conquet, Xavier Martinet, Claire Maillot et Lola Itéanu, à la prise de son Alex Donc et Vincent Ronet. Réalisation Thomas Beau.